por la huella el cabrestero. Póngale amor al camino y olvide su comedero. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tina por el agua que le bebió. Ahí la isla no vi. No lloro porque me voy ni por lo lejos el camino. Lloro porque se me queda el espejo en que me miro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí la gila no vi!
Un, dos, tres, un.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Bonix 105.4 à l'écoute de Djiboutique, l'émission des musiques et des cultures du monde. Ce soir, il n'y aura pas beaucoup de monde puisque je serai seul à vous tenir compagnie vu que notre compagnon Aymeric a des obligations familiales. Ah, Roméo, 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 Roméo! Nous aurons quand même des invités par procuration puisque nous aurons le groupe Cimarron en interview. Une interview réalisée lors du concert qu'ils ont donné il y a 3 semaines de ça à Musique Publique à la salle Molière. Grupo Cimarron qui est un groupe de musique joropo de Colombie, de la région des Llanos Orientales de Colombie. avec le maître Carlos Rojas, le directeur musical du groupe Grupo Cimarrón, nous expliquera toutes les subtilités de la musique Joropo de Colombie. Ben, toute cette émission sera consacrée à cette musique Joropo. On avait commencé par le groupe Cimarrón, justement, de son dernier album Quita Pesares, et ça a commencé par un chant de Vaqueria, donc le chant de la traite des vaches, et ça s'était poursuivi par l'instrumental Quita Pesares. La musique Joropo est une musique très mélangée, c'est ce que va nous expliquer Carlos Rojas, donc le harpiste du groupe Grupo Cimarrón. Une musique qui a des racines très mélangées, surtout d'influence du sud de l'Espagne, d'Andalousie, puisque la plupart des envahisseurs espagnols qui ont peuplé ces régions venaient d'Andalousie. Mais on retrouve aussi des influences africaines et des influences indigènes. C'est difficile de séparer toutes ces influences, puisque maintenant c'est devenu vraiment un bouillon de toutes ces cultures-là. C'est ce que va nous expliquer Carlos Rojas dans sa première intervention. Voici Carlos Rojas.
Nosotros somos Cimarrón de Colombia. Hacemos música de los llanos del Orinoco, que es un territorio que comparten dos países, Colombia y Venezuela.
Esa música se llama Joropo, ¿no?
Esa música se llama Joropo, sí. Esta noche hemos cantado también otra música de la gente de esta región, que no se llama Joropo, se llaman Cantos de Ganado. Cantaron una tonada de ordeño, compuesta por mí, pero es una tonada de ordeño que se canta al momento de ordeñar las vacas. Ajá. Se hace a capela, por supuesto, en condiciones de trabajo, pero que hoy hemos hecho en una versión con un acompañamiento de contrabajo, cuatro y percusión.
La origen de esa música, hay como una mezcla de raíces españolas, indígenas, africanas, es una mezcla bien, bien complicada, ¿no? Y entonces, la historia de esa música, ¿de dónde viene?
Bueno, la música llanera, que es como se llama la música de esa región, de los llanos, por esa razón. El joropo presenta una combinación, una mezcla de muchos elementos que hemos nosotros conocido con el tiempo, que tienen muchos orígenes, o tienen su origen en diversas músicas de Europa, de África y de América. Música del barroco europeo, y música tradicional popular española, sobre todo del sur de España, porque la región de los llanos de Venezuela y Colombia se conoció en un tiempo con los nombres de Nueva Andalucía. Vinieron muchos colonizadores en la época de la conquista de América, vinieron muchos colonizadores del sur de España a poblar estas regiones. Y también hicieron presencia en esta zona muchos esclavos africanos, y pues que se juntaron con indígenas de la región en los asentamientos ganaderos, en las haciendas ganaderas que comenzaron a gestarse allí. El origen de nuestra cultura en general, de la cultura llanera, es el ganado. Nosotros somos una región de vaqueros, de cowboys,
sí.
Y nuestros cantos son de cowboys. Las letras de las que hablamos, de las que hablan nuestras canciones, se refieren a los caballos, a las vacas, al ganado, a las travesías con el ganado. Somos una región de pastores de ganado. Y en estas haciendas ganaderas, que allá se llaman hatos ganaderos, se juntaron estos tres elementos: los elementos africanos, los elementos indígenas americanos de la región y los elementos españoles, los elementos hispánicos, para configurar ese tipo de música. No es tan evidente ni tan fácil separar elementos al interior de la unidad del estilo que se llama joropo. Pero bueno, uno puede sentir, por ejemplo, que el arpa llanera es mucho más cercana al estilo de la cora que a la misma arpa clásica, por ejemplo, o el arpa que terminó siendo el estilo que terminó siendo el estilo del arpa clásica. Yo siento eso mucho más cercano a la cora, pero sobre todo la africanía de esta música la sentimos en el manejo de lo rítmico, no tanto de lo percutivo, como sí de lo rítmico, de la estructura rítmica de esta música, el sentido improvisatorio que tiene en lo rítmico y la alta presencia de la combinación de rítmicas, de la rítmica del 3.
Oula, un petit problème avec le CD, on va vous le repasser dans quelques instants, la fin de cette intervention, mais on peut vous dire déjà que Carlos Rojas nous parlait donc de la musique, c'est une musique qui vient de la région donc des grande plaine de l'Est de la Colombie, les plaines qui jouxtent le Venezuela. D'ailleurs, la musique joropo est autant implantée en Colombie qu'au Venezuela, d'ailleurs plus au Venezuela même qu'en Colombie. On parle assez peu de la musique joropo colombienne alors qu'elle est très vivace. Il nous parlait donc des influences africaines par les structures rythmiques qu'on y retrouve, indigènes par certaines mélodies qu'on retrouve dans la voix du chanteur, puisque certaines tribus indigènes ont des chansons tout à fait similaires à ces mélodies-là. Il parlait aussi donc des influences espagnoles, qui sont les plus grandes, qui viennent de la musique baroque espagnole, et par là, on retrouve aussi des influences arabes, puisque l'Andalousie a été envahie pendant quelques siècles par les musulmans du Maghreb. Donc on retrouve cette influence arabo-andalouse dans cette musique-là. Aussi étonnant que ça puisse paraître, donc en Amérique du Sud, on retrouve des influences musulmanes, arabes, dans cette musique. Voilà, alors un petit morceau de joropo encore avec Llanero Soy, et c'est chanté par Ana Veido.
Soga y caballo, de pelo en guama y mascar.
silla, más pronto sabanero huele al bajaca morá. Huele a silla chocontana, cuando la van a estrenar. A sabana en el traje agua, a canoa para que sea.
Un llanero de verdad, qu'on pourrait traduire par un vrai cow-boy, hein, puisque c'est une région d'éleveurs de vaches et de chevaux. Bon, bah, on va essayer de vous faire passer la fin de la première intervention de Carlos Rojas.
Classique, par exemple, el arpa que terminó siendo, el estilo que terminó siendo el estilo del arpa clásica. Yo siento eso mucho más cercano a la cora. Pero sobre todo la africanía de esta música la sentimos en el manejo de lo rítmico, no tanto de lo percutivo, como sí de lo rítmico, de la estructura rítmica de esta música, el sentido improvisatorio que tiene en lo rítmico y la alta presencia de la combinación de dos rítmicas, de la rítmica del tres cuartos y de la rítmica del seis octavos, para decirlo en términos musicales, en esa música. Es una continua fluctuación entre esas dos rítmicas en donde yo siento mucho más la presencia de lo africano. Siento también lo indígena en muchas de las melodías vocales. Extrañamente, no pensamos en lo indígena cuando pensamos en la melodía, pero los indígenas de los llanos del Orinoco tienen ese tipo de melodías también en sus músicas, en unas canciones improvisatorias que ellos usan, y que se llaman bajnacabus, son muy cercanos a las melodías actuales de joropo. Pero también, por supuesto, que se siente mucho de la música del norte de África, de toda la herencia de las culturas del norte de África en las culturas del sur de España, y que a través de ese camino llegaron hasta nosotros. Cuando uno escucha la bandola llanera, ese tipo de laúd que nosotros tenemos, uno siente mucho la presencia de lo mozárabe en este tipo de músicas. Entonces es una combinación bastante particular de muchos elementos, pero como te digo, pienso que no están tan seccionados dentro de ella, están muy muy mezclados.
Ok, voilà donc Carlos Rojas qui nous parlait de la musique joropo et des différentes influences. Il nous parlait des indigènes de la région de l'Orénoque, hein, de la région duquel vient le groupe Grupo Cimarron. C'est bien qu'il en parle, parce que ça fait un lien avec l'émission précédente Djibouti qui vous parlait des peuples indigènes qui sont en danger pour le moment. Alors je vous incite à aller écouter cette émission sur notre site, hein, www.djiboutique.be, Djiboutique avec un K, à la fin, dans lequel vous entendrez cette émission où Paul Lorsignol de l'ICRA nous parle des peuplades indigènes du monde, et plus spécifiquement du Brésil pour cette émission-là. Mais l'ICRA s'occupe de toutes les peuplades indigènes, les peuples premiers, les peuples autochtones, les aborigènes du monde qui sont en danger. Donc je vous incite à écouter ça sur notre site Djiboutique. On continue avec la musique joropo, la musique música llanera, comme s'appelle cette musique. Llanera, ce sont les plaines, évidemment. Ici, c'est un grand maître de la guitare andalouse qui nous joue le grand tube de la musique joropo, Alma Llanera. Et ce grand maître, c'est Paco de Lucía. Ben voilà, l'influence entre le flamenco et cette musique joropo est assez évidente. Elle nous est prouvée par Paco de Lucía, qui donc joue ce morceau Alma Llanera. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre prochaine intervention de Carlos Rojas, qui nous parle de l'utilisation du cajon flamenco dans son groupe. Il va vous expliquer que s'ils ont introduit le cajon flamenco dans cette musique joropo, qui n'est pas un instrument qui est utilisé dans cette musique en général, mais qu'eux ont utilisé pour une raison assez simple, c'est que normalement cette musique joropo, quand elle est jouée, il y a des danseurs, c'est comme ça, hein, puisque c'est une musique de fête, une musique de célébration, il y a des danseurs qui dansent autour du groupe, et ils dansent une musique qui s'appelle le zapateo, qui est une musique où les pieds frappent le sol avec virulence, et comme dans la musique enregistrée, on n'entend pas ses pieds, le bruit de ses pieds, de ses zapateos, Carlos Rojas a décidé d'introduire dans les instruments de son groupe le cajon flamenco qui reproduit le son des pieds des danseurs. Mais en général, il n'y a pas cet instrument dans le joropo. Il a aussi décidé, innover, d'introduire la tambora, qui lui est un instrument typiquement colombien, mais plutôt utilisé dans tout ce qui est musique cumbia et musique de l'Atlantique, de la côte atlantique de Colombie, pour innover. Donc ça donne une assise rythmique vraiment très forte. Il nous en parle.
Une énergie cerca al flamenco, así, que está, me paraît también aumentado porque se usa un cajón flamenco, ¿no?
Sí, nosotros hemos adicionado a la organología, a los instrumentos tradicionales. Inicialmente agregamos el cajón flamenco porque fue el instrumento que encontramos que mejor servía para reproducir un elemento de la música que se perdió cuando esta música comenzó a ser grabada en los discos. Esta música, cuando se toca en las zonas rurales, cuando se toca en las zonas campesinas, se toca con, por ejemplo, con instrumentos como bandola, cuatro y maracas, o arpa, cuatro y maracas. Pero hay un sonido presente durante toda la fiesta, que es el sonido de los pies de los zapateadores. El sonido de los pies de los zapateadores se perdió en las primeras grabaciones. Y yo siempre comencé tocando como músico en fiestas campesinas, tocando en regiones rurales, en donde yo tocaba el arpa y sentía que había un sonido fuerte de percusión entre los zapateadores. Cuando escuchaba los discos grabados, no sentía ese sonido. Yo sentía que la música que se grababa estaba vacía. Le habían sustraído, le habían quitado un elemento, que era el elemento de la percusión de los zapateadores. Entonces, en mi grupo, en Cimarrón, me decidí a restituir ese sonido, a reintroducirlo. Por eso nuestro joropo suena mucho más enérgico, porque tiene la danza implícita dentro de la sonoridad total del grupo, a través de lo que hace el percusionista en el cajón y lo que hace el quien toca la tambora dentro del grupo.
¿Cómo se vive la tradición ahí de momento? ¿Está todavía viva? ¿La gente que trabaja, los ganadores, todavía cantan, todavía tocan ese tipo de música?
Sí, yo creo que eso se vive allí y de eso nos nutrimos. Definitivamente, los que hacemos música moderna, si se quiere, joropo moderno, nos nutrimos cada día de las músicas campesinas, ¿no? Y yo creo que lo que ha ayudado también a que haya esa conexión entre la música urbana, llanera, y la música campesina, ha sido los festivales. O sea, en los festivales nos encontramos todos, los que hacen música en la ciudad y los que hacen música en el campo. Entonces nos vivimos nutriendo, ellos también se nutren de las propuestas de las ciudades. Entonces es una continua comunicación.
Muchos jóvenes tocan joropo en el llano. O sea, no es una música que podamos decir es música de los abuelos, de los ancianos, y que se toca para recordar a los ancianos. No, esta es una música que hace la gente de todas las edades. Los niños, niños de 7, 6 años comienzan a tocar los instrumentos. La mayoría de los músicos de Cimarrón comenzaron tocando, cantando y tocando los instrumentos y bailando a los 6, 7 años de edad.
Voilà, donc le groupe Cimarrón en interview au Musique Publique à la salle Molière. Alors, ben, excepté ce que je vous avais dit juste avant l'intervention, qu'ils avaient introduit le cajón, donc une espèce de boîte sur laquelle on s'assied, sur laquelle on frappe comme une percussion, donc on frappe avec les mains, et la tambora, donc comme percussion pour remplacer les danseurs de zapateo, les danseurs qui frappent le sol avec leurs pieds. Ils m'ont expliqué que la tradition existe toujours là-bas. Donc les éleveurs, les vachers, les cow-boys, ils chantent toujours, ils jouent toujours cette musique, autant à la campagne qu'à la ville. Et que c'est lors des festivals qu'il y a une rencontre qui se passe entre les gens de la campagne qui jouent cette musique plus profonde, plus traditionnelle, et les gens de la ville qui, eux, expérimentent avec des nouvelles choses, avec des influences plus urbaines. Et c'est lors de ce festival qu'il y a des rencontres et que les musiques se nourrissent entre elles. Autant la musique de la campagne que la musique de la ville, elles se nourrissent mutuellement d'influences plus campagnardes ou d'influences plus urbaines. Carlos Rojas terminait en disant que c'est une musique qui est très ancrée chez les gens de cette région, puisque on commence à jouer cette musique très jeune. Et il parlait de tous les musiciens de son groupe, qui sont effectivement des gens très jeunes, ils n'ont pas plus de 30 ans. Et ils ont tous commencé à l'âge de 5 ou 6 ans, vous imaginez, des petits Mozart du Joropo. 5 ou 6 ans, ils ont commencé à jouer cette musique. Et voilà, les voilà devenus des virtuoses de la musique Joropo, la musique llanera. On retourne au groupe Cimarrón et on va bien entendre cette influence du flamenco. Thank you. entend bien les doigts qui courent sur les cordes de la guitare, comme dans le flamenco, le joropo, le flamenco, ces guitares super rapides, ces guitares accélérées. C'est bien joropo avec le groupe Grupo Cimarron, et le morceau s'appelait Cuerdas al Galope, les cordes au galop. Dans la prochaine intervention de Carlos Rojas, il va nous parler de la tradition de l'improvisation de la musique joropo, qui est une tradition ancrée aussi depuis très longtemps dans cette musique, qui est autant dans les instruments que dans les voix. Dans les voix, ça s'appelle le contrapunteo, qui est une espèce de joute verbale entre des chanteurs qui récitent des vers et doivent réciter les vers ou les plus comiques ou les plus intelligents ou les plus émotionnels. Et c'est une espèce de combat entre deux chanteurs. C'est une tradition qui existe dans pas mal de musique latino-américaine. Je pense que ça vient des troubadours espagnols, hein, qui avaient aussi cette tradition de jeu, de mots, de verbes entre eux. Donc cette tradition a perduré dans la musique joropo des Llanos Orientales de Colombie. Grupo Cimarron ne joue pas ces espèces de défis verbaux. Eux, c'est entre les instruments de musique qui le font, et vous allez voir comme ce sont des virtuoses. Même s'ils sont très jeunes, ils sont vraiment très bons dans ces solos de musique. Alors, ils nous parlent effectivement que ces jeunes sont un peu influencés surtout par la radio, puisqu'ils n'ont pas appris la musique à l'académie, mais ils l'ont appris en famille, de leur père, de leurs oncles, de leurs grands-pères. Mais ils écoutent à la radio du hip-hop, du jazz, des musiques brésiliennes, et donc ces influences se retrouvent bien sûr dans leur façon de jouer.
Este tipo de concierto, tal como lo hace Cimarron, tiene por supuesto, digamos, una estructura de concierto para la escena, de concierto para el escenario. Pero realmente, digamos, los solos que suenan son realmente interpretaciones de música llanera. Por supuesto que cada instrumentista, cada músico filtra a lo largo de su vida una gran cantidad de influencias. ¿Sí? En algunos se siente más que en otros. Quizá tú sientas en el solo de bandola menos influencia de música, por ejemplo, de jazz contemporáneo, el Latin jazz sobre todo, que suena mucho en estos países, que por ejemplo lo que puedas sentir en el cuatrista. Pero lo que pone en el cajón, por ejemplo, el percusionista cuando toca el cajón, lo que pone realmente es el ritmo de sus pies puesto ahí. Lo que pasa es que todas esas músicas, todas esas músicas que latinas tienen una base que es común, y a veces tú puedes pensar que suenan influencias, digamos, de las improvisaciones jazzísticas en nuestros instrumentos, pero de verdad eso está en la tradición también de esos instrumentos. Está, la tradición de improvisar en los instrumentos pertenece, claro, está en esa música. Si un músico llanero no improvisa, no puede sobrevivir en ese mercado. Es de la esencia de esa música improvisar.
Hay también una tradición en la música llanera que es el, ¿cómo se llama? El contrapunteo. Ese también es improvisación, ¿no? Es como una pelea de palabras, ¿no?
Exacto. Esas músicas tienen. El contrapunteo es una expresión de lo improvisatorio en la voz. Nosotros realmente tenemos una pieza, por ejemplo, que es la última pieza, donde tú puedes ver que eso es casi un contrapunteo de instrumentos.
Yo hago un solo y
es un reto para el que viene. El que viene hace otro solo y ese es un reto para el que sigue. Por eso siempre estamos mirándonos y esperando. O sea, si yo hago un solo y está bien ese solo con el público, ella canta, el pajarillo muestra cómo se hace la voz y ella deja un reto para mí en el arpa. Yo toco mi solo, pienso en lo que voy a hacer y trato de entregar lo más que puedo, pero yo me constituyo a la vez en un reto para el que sigue, que creo que es el de la bandola. Él hace su solo y deja un reto para el que sigue. De alguna manera es una reminiscencia de lo que es el contrapunteo llanero, del duelo. Porque los duelos de músicos también existen en el joropo como tales. Lo que viste en el escenario es un duelo de músicos, pero compañeros, pero tampoco... Es decir, de alguna manera estamos compitiendo uno con otro en el escenario.
Desafío,
okay, es un desafío, eso es. Sí, sí. Eso es la esencia. Está en la esencia de esa música.
Ok, voilà, donc Carlos Rojas nous parlait donc de ces improvisations, de ces joutes improvisées d'instruments qui sont une réminiscence de ces joutes verbales en fait, qui sont plus répandues et plus connues. Mais il dit quand même l'improvisation instrumentale, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans la musique joropo. Un musicien qui ne sait pas improviser ne survit pas dans cette musique-là. Il nous disait aussi que le concert qu'ils nous ont donné à la salle Molière chez Musique Publique, les chansons et le spectacle est spécialement fait pour la scène, donc c'est pas vraiment pour danser, c'est pas pour une célébration particulière, c'est vraiment travailler pour faire des concerts, mais des concerts autant en Belgique qu'en Colombie, qu'en Angleterre, qu'en Chine. C'est pour faire une démonstration de musique joropo, et effectivement, nous en avons fait une démonstration et une belle.
Cantar de brisa del río, ay carmentea tu corazón, será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay carmentea tu corazón, será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, desde que des mi amor, serás correspondida. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, desde que des mi amor, tú serás correspondida. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Si tu noche te desvelo, al gallo si quieres cantar, recuérdalo carmentea, si te mi alma llorar. Si tu noche te desvelo, al gallo si quieres cantar, recuérdalo carmentea, que si te mi alma llorar. Son negros que matan cuando me miran, ay, carmentea mi pecho por ti suspira. Son negros que matan cuando me miran, ay, carmentea mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora, y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora, y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay carmentea tu corazón, será mío.
Carmentea, un des grands classiques de la musique joropo de Colombie, enfin de Colombie ou de Venezuela, on ne sait pas très bien. Les gens se disputent pour savoir de quelle origine est cette chanson. C'est la grande chanson de la musique joropo, mais on ne sait pas si elle vient de Venezuela ou de Colombie. Sans doute qu'elle a été composée sur la frontière, hein, ça c'est clair. Voilà, alors la prochaine intervention de Carlos Rojas, ce sera d'abord la chanteuse Ana Veido qui va parler. Je leur pose une question assez délicate à propos de la politique, puisque c'est une région, vous savez, qui est entre Venezuela et la Colombie. C'est une région qui, dernièrement, était un peu chaude. Vous savez, le Venezuela est très à gauche et la Colombie est très à droite. Je ne parle pas géographiquement, hein, mais politiquement. Et il y a eu quelques échauffourées à cause de la guérilla qui est un peu dans les forêts, qui serait, selon la Colombie, aidée par le Venezuela, ce qui est démenti effectivement par le Venezuela. Mais voilà, donc c'est une région un peu chaude et en même temps, c'est une région qui est unie par une culture très forte. La culture llanera, donc la culture des plaines, la culture des cow-boys, la culture des vaches, des chevaux. Alors je leur pose la question, effectivement, ben comment ça se passe? Anna Veido me dit que elle n'a pas de problème du tout, elle adore les Vénézuéliens, elle adore la musique du Venezuela, elle aime bien Chavez, elle respecte Chavez, parce qu'elle dit que ben, Chavez d'abord est né dans un village des Llanos vénézuéliens, et que c'est un personnage respectueux de la musique joropo. D'ailleurs, écoutez comment elle dit respetuoso, respetuoso de la musica llanera. C'est vraiment très intéressant. Et puis, Carlos Rojas interviendra bah, pour dire qu'effectivement, politiquement, c'est un peu chaud.
Ahora una pregunta un poco delicada. La región de los Llanos está entre Venezuela y Colombia, que son hermanos en la cultura, pero hermanos un poco enemigos a nivel político. Parece que es una región que tiene una cultura que les une a todos. ¿Hay una ambigüedad o es la política nacional que influye en este o qué?
Bueno, es mi
¿Tú?
posición. Amo el joropo venezolano,
Ah.
me encanta Venezuela.
Ya.
También respeto a Chávez porque es un respetuoso de la
Ah.
música llanera. O
Okay.
sea, es un señor, es una persona que nació en Barinas, que es una región llanera, una persona que apoya el joropo en Venezuela también. Y bueno, yo pienso que la cosa con Chávez también ha sido un manejo más bien de medios, una cuestión política, porque al interior, digamos, de los que hacemos joropo en Colombia y Venezuela no hay ese problema.
Ah,
O sea,
sí.
nosotros nos queremos, nos respetamos y nos encontramos continuamente en los festivales, en parrandas y es otro tipo de relación, pero yo pienso que ahí es otra cosa. Pero a mí me gusta Venezuela,
Ya,
quiero mucho a los venezolanos,
okay.
sí.
La zona puede ser, digamos, caliente en la frontera misma, en donde, por supuesto, digamos, hay al lado y lado de la frontera, hay presencia, digamos, de muchos actores armados de los conflictos y demás. Entonces, la frontera es caliente, pero a nivel, digamos, de los pueblos, estos pueblos están hermanados familiarmente hace muchos años. Por ejemplo, mi bisabuela viene de Venezuela, se establece en Colombia hace siglo y medio, pero muchas familias de Colombia se establecieron en Venezuela también hace muchos años. Muchos tienen familia al lado y lado de la frontera, son parientes, son hermanos. Y la música comparte muchos espacios comunes, por ejemplo, los festivales de concurso, de los que hablaba Ana Baidó antes, que tienen que ver. En esos festivales se encuentran los artistas de Colombia y Venezuela y hay muchas relaciones de amistad. Ellos admiran lo que nosotros hacemos como músicos y nosotros admiramos lo que ellos hacen como músicos. Compartimos, nos ponemos a cantar y a tocar. Es decir, ese tipo, digamos, de conflictos no se percibe en lo musical, pero no se puede negar que en los últimos años esa situación ha venido cambiando un poco, porque de todas maneras los medios de comunicación exaltan un poco la animadversión entre Colombia y Venezuela. Y por más que uno no quiera, termina de todas maneras involucrado en esas relaciones. Los llaneros son personas muy temperamentales y muy emotivos. Y golpea mucho, por ejemplo, si uno sabe que hubo maltrato a ciertos venezolanos en Colombia, para ellos es muy duro pensar en eso, o que hubo maltratos de colombianos en Venezuela, esas cosas terminan afectando emotivamente los pueblos, ¿no? Y entonces las cosas han venido cambiando los últimos años. Pero yo pienso que aún se mantiene digamos que el peso fuerte de la amistad de los pueblos de uno.
Se puede decir como conclusión que la cultura es más fuerte que la política.
Por supuesto, yo
No
sí
saben,
creo.
lo duro es que no sabremos hasta cuándo. De hecho, cuando se presentaron en los últimos tiempos cuando el conflicto estaba en su punto más alto, casi en el rompimiento de relaciones, muchos artistas llaneros firmaron una carta de amistad con artistas venezolanos. Se firmó una carta a los dos lados de la frontera que circuló en Facebook. Un grupo, estamos por la unidad de los pueblos, por la unidad del pueblo llanero a uno y otro lado de la frontera, ¿no? porque ese pueblo tiene, el pueblo llanero tiene un sentido de unidad que va más allá de la nación colombiana o de la nación venezolana. Los llaneros se sienten una nación, con un lado allá y otro lado aquí. Pero claro que la política también termina desuniendo. Eso es innegable, no se puede negar. Que eso también está sucediendo, pues es terrible, pero está sucediendo.
Ok, Carlos Rojas nous explique qu'effectivement c'est une région assez chaude au niveau de la frontière. Bon, c'est une très grande région hein, en Colombie, ça prend, je ne sais pas, un cinquième de la Colombie. Mais au niveau de la frontière, c'est un petit peu chaud effectivement entre la Colombie et le Venezuela. Mais que bah, les peuples, en fait, ils s'entendent, hein, tous les gens s'entendent, les musiciens se respectent de part et d'autre de la frontière. Au point même qu'au moment où il y avait eu les plus grands échauffourées entre le Venezuela et la Colombie, les musiciens avaient créé sur Facebook une liste spéciale pour appuyer l'amitié des musiciens et des gens de la culture et même des peuples vénézuéliens et colombiens pour bien montrer qu'au niveau des peuples, ça se passe bien. Ils nous racontent que les gens de ces régions, ils sont un peu chauds, effectivement. Ce sont des gens assez émotifs. Bon, ce sont des cow-boys quand même, donc ils ont, on va dire, la gâchette facile. À force d'entendre qu'il peut y avoir des choses qui se passent entre, je sais pas, des petits problèmes entre vénézuéliens et colombiens dans une ferme, d'un côté ou de l'autre de la frontière, ça peut les rendre un petit peu nerveux. Et comme les médias sont très friands d'échauffourées et de violence, il dit que les médias exaltent la relation entre guillemets animale qui est entre la Colombie et le Venezuela. Des gens peuvent croire ça et ça peut énerver certaines personnes et effectivement rendre cette amitié un peu plus difficile. Voilà. Alors il dit pour le moment la culture est plus forte que la politique, mais on espère le plus longtemps possible. Parce que la politique, effectivement, n'est pas un facteur d'unité, mais plutôt un facteur de désunion pour ce peuple, qui a une très grande amitié, une culture tout à fait commune, mais qui, pour des raisons nationales des deux côtés, risque d'être confronté l'une à l'autre à la frontière. Voilà. Alors on termine cette émission sur le joropo en écoutant La Potra Zaina, qui est la chanson d'une série télé colombienne. Alors je vous conseille d'aller voir sur YouTube la présentation de cette série télé, La Potra Zaina. Alors si vous voulez voir des cow-boys colombiens en plein accent, allez voir ça, ça vaut le détour.
Contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andad más y trotero de crines muy hermosas, corría por los senderos, era una potra muy singular, no conocía el amor, no conocía el corral, no conocía bozar, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones pelean por su hermosura. Paseando en las sabanas, en las noches de luna, coqueta se miraba, sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Thank you. quiere el freno morder, ni la montura llevar. Riendas no quiere sentir, ni que le toca posar. Y cuando esté en el potrero...
Sala y tote sala, malidin watote sala yande. Ma besala y tote sala, malidin watote sala yande. Ene besan tote sala, malidin watote sala yande. Ene besa antote sala, manidi mwa tote sala yande. Ene besa antote sala, manidi mwa tote sala yande. Imini nyangulu, usagulu, udangalangulu yande. Imini nyangulu, usagulu, udangalangulu yande. Emini nyangulu, edangalangulu yande. Emini nyangulu, edangalangulu yande. Emini nyangulu, edangalangulu yande. Sala y tote sala, malidin watote sala yande. Ma besala y tote sala, baba si y tote sala yande. Ma besala y tote sala, baba si y tote sala yande. Ene besa antote sala, kari kari tote sala yande. Ene besa antote sala, kari kari tote sala yande. Itote sala, kari kari tote sala yande.
Toujours sur Djibouti, Radio Panique 105.4, Djibouti tous les mercredis entre 18 et 19h. Et on écoute permanente sur le site www.djibouti.be, Djibouti avec un K à la fin. Vous retrouverez toutes les émissions, dont celle-ci, en écoute permanente sur ce site. Alors pour cette émission-ci, il y a quelque chose de particulier, c'est que vous pouvez, si vous comprenez l'espagnol évidemment, vous retrouverez l'interview en intégrale sur le site. Alors on a changé de continent, vous vous en rendez compte, hein, puisqu'on est en Afrique, on est au Mali plus précisément avec Boubacar Traoré. Ceci pour vous signaler que Boubacar Traoré sera demain au Molière, la salle Molière qui se trouve près de la porte de Namur, organisée par Musique Publique, concert de Boubacar Traoré à 8h30. Dépêchez-vous, hein, ça va être bourré très très vite. Alors, autre concert bientôt à vous signaler, le 20 mars au Sangor, il y aura la chanteuse tunisiano-belge ou belgo-tunisienne, c'est plus facile à prononcer, Galia Benali, qui nous fera un concert en hommage à la grande chanteuse orientale Oum Kalthoum, qui elle est tunisienne aussi, bien qu'elle soit à la médiathèque classée dans les chanteuses égyptiennes, mais c'est vu son succès en Égypte, j'imagine. L'Égypte qui était à cette époque, donc début du siècle précédent, les années 1930-1940, qui était le grand pays culturel, le grand pays riche culturel. Donc son grand succès en Égypte. Galia Benali donc nous fera un concert au Sangor, qui se trouve, vous savez, près de la place Jourdan, hein, près du temple des frites de la place Jourdan dans le piétonnier. Alors Galia Ben Ali, on espère la voir pour la semaine prochaine, la voir en interview. Elle nous parlera de sa carrière et de Oum Kalthoum. Donc on vous fera connaître Oum Kalthoum, cette grande chanteuse orientale, et on rencontrera Galia Ben Ali. On espère, on croise les doigts. Voilà, on va devoir vous quitter puisque l'émission suivante sur les logiciels libres toque à la porte. Donc on va devoir effectivement, comme il est l'heure, se quitter. On fait un coucou au babysitter et à son petit Roméo. Et voilà, on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine, c'était Djiboutique. Bonne soirée, ciao.